Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Et pour commencer ce retour sur la semaine, c'était une histoire de jour, la chronique d'une histoire attendue, la France à son tour touchée par la cinquième vague.
La France connaît à son tour une cinquième vague. Depuis 2 ans, la donne a changé. Et nous avons les moyens de nous prémunir individuellement et collectivement des conséquences dramatiques des premières vagues. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité.
C'était au lendemain du Conseil de défense sanitaire. Olivier Véran, le ministre de la Santé, tenait jeudi une conférence de presse et il annonçait donc des nouvelles mesures pour faire face à la cinquième vague de Covid-19. De nouvelles mesures, mais ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture des commerces, ni limitation de déplacement. Je ne demanderai pas à Natacha de nous dire quelle figure de style ça recouvre, mais parlons du fond pour le coup. C'est une nouvelle forme de communication, Gilles, prendre la parole pour annoncer ce qui ne sera pas imposé aux Français.
C'est un procédé qui est classique et qui s'appuie beaucoup sur ce que les Français ont d'abord en mémoire lorsque l'on parle de cette crise. Je crois que Olivier Véran a raison de dire que la donne a changé et je crois que les deux maîtres mots qui traduisent l'état d'esprit des Français aujourd'hui et les réactions des pouvoirs publics, c'est le pragmatisme et le sang-froid. Le pragmatisme, c'est-à-dire qu'on est tous obligés de nous adapter à l'évolution de la situation, aussi à l'évolution des connaissances, et c'est très frappant quand on regarde l'évolution des positions par rapport à la troisième dose, quand doit-elle être administrée, à qui. On est passé des plus de 65 ans et maintenant on est au plus de 18 ans. Et d'ailleurs, on voit que les Français, dès lors qu'il n'y a ni confinement, ni couvre-feu, et donc ce n'est pas un hasard si Olivier Véran a cité ces deux exemples-là, dès lors qu'il n'y a pas ça, sont prêts massivement à tout le reste, c'est-à-dire davantage de télétravail, le port du masque, la troisième dose, on est à plus de 75%. Enfin, je disais, deuxième mot, c'est le sang-froid, c'est-à-dire qu'on est dans une situation dont on voit qu'elle est sérieuse, on a en tête les chiffres que donnait l'OMS, on voit que l'essentiel des contaminations dans le monde se font aujourd'hui sur notre continent, on voit ce qui se passe un peu plus à l'Est, de chez nous, et dans le même temps, on a beaucoup plus d'expérience et on essaye de concilier l'objectif de santé publique avec d'autres objectifs. C'est très frappant quand on regarde les choix qui ont été faits sur l'école.
Natacha Polony.
Alors, je pense que je partage la vision de Gilles sur les choix sur l'école. En effet, là, il y a du pragmatisme, il y a une forme de rationalité qui prend en compte non seulement les questions scientifiques, les questions sanitaires, mais aussi le bien-être des enfants et le caractère essentiel de la transmission. Pour le reste, en revanche, je suis plus dubitative, dans le sens où il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'arme principale, essentielle contre cette cinquième vague qu'on nous annonce est la vaccination généralisée.
Oui.
C'est-à-dire cette idée que, en fait, les vaccins apporteraient la réponse. C'est tellement vrai qu'en fait, on va vers une vaccination beaucoup plus poussée, quasi obligatoire, par exemple par le raccourcissement du délai de validité pour les tests PCR. Sauf que, est-ce que ça jouera le moindre rôle pour inciter ceux qui ne sont toujours pas vaccinés à aller le faire? Or, on a un problème, qui est que on a toujours un résidu de gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas aller se faire vacciner, notamment dans des publics fragiles. Il y a ceux qui n'ont toujours pas été atteints, c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils sont un peu éloignés et on n'est toujours pas allé les chercher, ceux-là. Et du coup, on répond par une troisième dose généralisée dont les bénéfices purement médicaux peuvent être réfléchis, en tout cas, non pas forcément mis en doute, mais en tout cas, il serait nécessaire d'en discuter. Regardez, un simple exemple, la réaction à la contamination de Jean Castex montre bien cette espèce de gêne parce qu'il n'y a pas de réflexion large sur l'ensemble des armes dont nous disposons et sur le but de la vaccination. Donc tout à coup, on s'aperçoit que Jean Castex, double vacciné, en effet, a été contaminé. Mais oui, d'accord, et alors ? Il a un simple rhume. Et là, on continue à nous parler d'une cinquième vague fulgurante, apocalyptique, alors qu'en fait, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est y a-t-il des formes graves et qui mettent en danger la vie des gens ? Parce que, justement, l'intérêt de la vaccination, On l'a enfin compris, ça ne bloque pas les contaminations. En revanche, ça limite les formes graves. Mais il faut tenir compte du fait que ça ne bloque pas les contaminations. Et donc mener une politique qui pense cela. Or, le discours est toujours « on va en venir à bout ». En vaccinant tout le monde, ceux qui risquent des formes graves et ceux qui ne risquent rigoureusement rien.
Gilles.
Oui, juste un mot. Le risque sanitaire de vague en vague change un peu de nature. On avait une crainte justifiée d'une explosion du nombre de décès au tout début. On avait une crainte de l'explosion du système hospitalier du fait d'un afflux de malades. Aujourd'hui, la crainte est davantage celle d'une implosion du système hospitalier du fait d'une augmentation des démissions. Et face à ce risque-là, il y a la responsabilité des citoyens et tout n'est pas mis sur la vaccination. Le respect à nouveau des gestes barrières. D'ailleurs, nous portons aujourd'hui un masque dans ce studio tous les trois.
C'est le retour du masque en studio.
C'est le retour du masque en studio. Donc, il y a la responsabilité des citoyens. La responsabilité de l'État, c'est une responsabilité d'efficacité sur les doses, sur la vaccination. C'est vrai sur la troisième dose, et on a vu l'afflux considérable, mais c'est vrai aussi, Natacha a raison de dire, sur la première dose pour ceux qui ne l'ont pas.
On plus peut mesurer d'ailleurs le nombre de personnes concernées.
Je crois que les 10 et 15%
voilà, les chiffres sont aux alentours de 15%, ce qui est plutôt un peu mieux que dans beaucoup de pays européens, et notamment de ceux dans lesquels cette cinquième vague est plus forte en Autriche ou en Allemagne. Donc, ce sont les plus âgés, les très âgés souvent, et puis les plus réfractaires. Et là, il y a du travail, un peu de couture à faire.
Oui, Natacha, d'un mot.
Les plus âgés sont moins vaccinés en France que dans d'autres pays comme l'Espagne ou le Portugal. Et c'est un problème. Mais de même, il reste des questions. Par exemple, les contrôles quand vous arrivez à l'aéroport sont beaucoup plus drastique dans d'autres pays qu'en France, c'est-à-dire qu'un citoyen français qui revient de vacances n'est absolument pas contrôlé. Ça me semble un problème. Pourquoi ? Parce que une des craintes, c'est qu'il y a en effet une flambée de l'épidémie dans certains pays du monde, qu'il peut y avoir des nouveaux variants qui surgissent. Il faut essayer de limiter l'arrivée de ces nouveaux variants. On ne les empêchera pas, mais il faut limiter pour éviter justement des nouvelles vagues fulgurantes, etc. Or, j'ai l'impression que autant il y a des mesures qu'on se refuse à prendre, autant l'idée de vacciner tout le monde parce que c'est plus simple que d'essayer de toucher les gens qui ont vraiment besoin d'un vaccin, ça c'est l'option choisie. J'ajoute qu'on nous explique que donc pour l'instant il n'y aura pas de vaccination des enfants. On attend les décisions de l'Union européenne, mais là aussi ça me semblerait assez bizarre. Plutôt que d'aller vacciner des gens vraiment fragiles, d'empêcher des enfants de faire leur immunité naturelle, ce qui me semble le plus sain, puisque on sait que cette immunité naturelle est plus puissante que celle causée par les vaccins.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte.
Le Premier ministre Jean Castex, c'était lundi soir, il s'exprimait à l'issue d'une réunion avec les élus des territoires d'outre-mer. La situation est restée, vous le savez, tendue toute la semaine en Guadeloupe, mais aussi dans d'autres collectivités d'outre-mer, comme en Martinique. Un mouvement d'abord pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants, contre le pass sanitaire. Mais parmi les mots d'ordre se sont ajoutés au fur et à mesure des jours des problématiques sociales, comme une réclamation de l'augmentation des salaires, du pouvoir d'achat. Difficile de mesurer l'ampleur des violences, difficile de mesurer les affrontements avec les forces de l'ordre et ce qui pourrait en sortir, mais le conflit semble complètement dans l'impasse. Comment l'expliquer, Natacha ?
Parce que c'est un conflit très ancien et que la question de la vaccination des soignants est une question, en fait, presque annexe dans ce conflit. Elle n'est venue que révéler des tensions très profondes. D'abord, une défiance majeure vis-à-vis de l'État et de la métropole, qui s'explique parfaitement par l'histoire spécifique de la Guadeloupe. Notamment, tout le monde a cité la question du chlordécone, qui est essentielle. C'est-à-dire que ça touche l'ensemble de la population. Ce sont des cancers, c'est un mensonge absolument effarant. Donc, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Ça laisse des traces, c'est normal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un problème de développement des Antilles. Le taux d'illettrisme des 16-26 ans aux Antilles est de 30%. La moyenne nationale, c'est 11,8%. Donc, c'est un problème, là aussi, absolument profond, enraciné, enquisté, qui n'a pas été réglé. Je veux dire, la situation de certaines écoles en Guadeloupe est monstrueuse.
Et dernier point. L'hôpital de Pointe-à-Pitre, par exemple, doit être rénové depuis 30 ans.
Voilà. Et même s'il est indéniable qu'il y a de l'argent qui est déversé. Dernier point qui est très important aussi, c'est la situation économique, dans le sens où les Antilles françaises sont plombées par le fait qu'elles utilisent une monnaie qui n'est pas celle de leur zone économique. Parce qu'en fait, ça les rend totalement dépendantes de la métropole. Tout y est en euros, l'euro est surévalué par rapport aux autres zones qui sont alentour, et l'ensemble des produits sont importés de la métropole, ce qui donne un coût de la vie effarant, et ce qui empêche le développement de l'île dans son bassin économique naturel. Là aussi, il y a quelque chose à réfléchir. Peut-être couper davantage économiquement ces îles de la métropole et au contraire leur créer des liens avec les pays alentours.
Gilles,
je crois que l'image éculée, mais qui est juste pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et qu'il faut regarder à la fois la goutte d'eau et à la fois le vase. La goutte d'eau, c'est la situation sanitaire et notamment la question de l'obligation vaccinale. La situation sanitaire, la Guadeloupe, comme la Martinique, a été épargnée par la première vague qui nous a touchés ici en métropole de plein fouet et a été cruellement touchée par la vague de cet été. Il y a eu relativement à la population, beaucoup plus de morts là-bas qu'il n'y en a eu ici. Le constat aussi est que si les soignants sont relativement correctement vaccinés, on est à 85%, le pourcentage dans la population d'un schéma complet de vaccination demeure extrêmement faible. Hein. On est à peine au tiers de la population. Et il faut quand même essayer de comprendre les raisons qui sont à l'origine de ce refus de vaccination. Alors, il y a peut-être des causes très lointaines. J'ai lu ça dans un rapport au corps qui est différent et qui tient au passé, à la fois à l'esclavagisme et au colonialisme. Il y a certainement une défiance institutionnelle dont les ressorts sont plus récent, c'est le scandale du chlordécone qu'a évoqué Natacha. Hein. Le chlordécone, c'était un pesticide qui a été utilisé dans les plantations de bananes pendant des décennies, et y compris à un moment où on connaissait sa dangerosité.
Sa nocivité, oui.
Et il y a une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, il y a 2 ans, qui a pointé la responsabilité majeure de l'État. Et donc ça, évidemment, ça laisse une trace, une mémoire dans la défiance institutionnelle. Il y a une autre raison qui est très rarement soulignée, qui tient, je crois, au poids des religions et notamment à l'influence des églises pentecôtistes, oui, des témoins de Jéhovah, et qui sont aussi une des explications, au-delà de la défiance institutionnelle, qui explique cette défiance. Et puis, sur l'autre aspect, sur le vase, c'est-à-dire sur la situation sociale. Il y a les chiffres qu'a donné Natacha, c'est vrai aussi du taux de pauvreté, hein, qui est très important, beaucoup plus important qu'en métropole, c'est vrai du chômage et du chômage des jeunes, c'est vrai, ça m'a beaucoup frappé de l'état des réseaux d'eau. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un département dans lequel, de manière récurrente, vous avez des coupures. On est dans un département, dans une région dans laquelle, de manière récurrente, les stations d'épuration ne sont pas aux normes, dans lesquelles la production d'eau, pour moitié, se perd en cours de route du fait des fuites. Et donc, on est dans une situation que l'on n'accepterait pas ailleurs. Il y a une forme...
Ailleurs, vous voulez dire en métropole ?
Absolument, il y a une forme... On s'accommode d'une situation dans les départements et régions d'outre-mer dont on ne s'accommoderait pas ici, et ça vient aussi entretenir la défiance que j'évoquais.
Et c'est un sujet dont on pourrait parler avec notre invité, l'historien Pascal Blanchard, qui connaît parfaitement ces questions. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté du Rhin.
Le grand face-à-face, le duel.
Le feu tricolore est là. Le SPD, les Verts et les libéraux se sont mis d'accord sur un contrat de coalition qui ouvre la voie à un nouveau gouvernement.
Habituez-vous à entendre cette voix plutôt austère, à retenir ce nom, en tout cas, Olaf Scholz. La page Merkel se tourne en Allemagne, elle est même tournée, puisque c'est le social-démocrate Scholz qui sera le nouveau chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Une coalition formée entre sociaux-démocrates allemands, les Verts, les libéraux, était conclue mardi. On appelle ça là-bas le feu tricolore. Et les Allemands doivent s'attendre à du changement, sortie anticipée du charbon d'ici 2030, calendrier donc accéléré, augmentation importante du salaire minimum et encore impensable chez nous, légalisation du cannabis. Vous aimez, Gilles, ce feu tricolore ?
Pas mal. Je trouve d'abord que ce qui est très important en Allemagne, ce qui est très important pour les Allemands, c'est le process. C'est comment tout cela a accouché. Et je crois que le fait qu'il y ait à la fois de l'efficacité, ça a été les négociations ont été engagées sans tergiverser, elles ont été conclues beaucoup plus rapidement que ce qui était escompté. La discrétion dans laquelle tout ça s'est fait, c'est-à-dire que les Allemands ont découvert sans aucune fuite pendant toutes les négociations le résultat, que tout ça a beaucoup renforcé pour les Allemands, la crédibilité de cette nouvelle coalition. Et maintenant, la suite est assez balisée. Il va y avoir à la fois une phase de validation démocratique par les adhérents des différentes formations politiques, un moment symbolique qui va être la signature de cet accord de coalition, et puis une phase institutionnelle, l'installation du gouvernement, l'installation du chancelier, et évidemment le voyage, le premier voyage à Paris, comme cela se fait traditionnellement. Et puis l'autre élément, évidemment, l'élément essentiel, c'est sur le contenu. C'est pour la première fois un compromis à trois, avec évidemment ses ambiguïtés, parfois même ses contradictions. Mais ce que je trouve positif, c'est que l'Allemagne...
Mais un programme malgré tout présenté comme révolutionnaire.
Alors révolutionnaire, ça me paraît très excessif. En revanche, l'Allemagne retrouve du mouvement et il y a quand même une nette inflexion par rapport à la coalition précédente dirigée par la CDU. Vous en avez cité quelques-uns. Inflexion sociale, le SMIC qui augmente à 12 euros et qui augmente tout de suite et d'un coup. Les inflexions environnementales, vous en avez cité quelques-unes.
Il est autour de 9 euros aujourd'hui.
Voilà, donc c'est 30% d'augmentation, ce n'est pas rien. Les inflexions environnementales, avec en gros une ligne qui on accélère la mutation vers les énergies renouvelables. Vous ne l'avez pas cité, mais inflexion démocratique avec l'élargissement de la citoyenneté et le droit de vote à 16 ans. Inflexion sociétale avec le cannabis.
Droit de vote à 16 ans.
Droit de vote à 16 ans, ce qui est en débat d'ailleurs dans notre propre campagne ici. Inflexion économique avec beaucoup d'investissements. Mais tout n'est pas rose sur ce point-là, et je suis sûr que Natacha va en parler. Inflexion européenne aussi, ça a été peu souligné, mais avec quand même un certain nombre de propositions qui traduisent une volonté d'intégration plus poussée. Tout ça n'est pas mal, mais il y a quand même quelques points noirs. Je suis sûr que Natacha va en parler, donc je m'arrête là.
Natacha Polony.
Je pense que...
Allez-vous satisfaire, Gilles ?
Il y a deux manières de regarder cet événement. Du point de vue, j'allais dire, de la politique intérieure allemande, c'est en effet extrêmement intéressant. Je souscris à ce qu'a dit Gilles. Ça démontre le bon fonctionnement de la démocratie allemande et la capacité de compromis qui sont absolument essentiels et qui font défaut terriblement et tragiquement dans les institutions françaises. Et puis, il y a la question cruciale des rapports franco-allemands et de l'influence de ce changement sur la France elle-même, ce qui n'est pas être nombriliste, mais qui consiste tout simplement à être pragmatique et à regarder ce que ça va donner pour nous. Or là,
justement,
je pense
oui.
que c'est une des pires configurations pour nous. Pourquoi ? Parce que le ministre des Finances est un libéral, qui fait partie donc de ce parti, qui n'a rigoureusement aucune intention d'aller plus loin dans le partage des dettes et même qui veut remettre en place une forme d'austérité qui réclame un retour rapide
à
des critères stricts d'équilibre budgétaire en Europe. Donc tous ceux
enfin,
qui
en
se
Allemagne,
disent,
pour commencer.
Oui, mais en Europe aussi. En Europe aussi, bien sûr. Et c'est bien tout l'enjeu. Et ceux qui espéraient que le SPD serait plus favorable, etc., se trompent totalement. Et tout cela est allié, en effet, d'abord à l'arrivée des Verts, donc sur le plan de la transition énergétique, il va y avoir une lutte encore plus farouche de l'Allemagne pour exclure le nucléaire de la taxonomie bruxelloise. Donc ça va être très compliqué pour la France. Et, dernier point, la demande d'inflexion sur les institutions européennes, elle est très intéressante. C'est une demande de fédéralisme beaucoup plus poussée. Mais c'est un fédéralisme qui donc intervient dans un contexte que je viens de citer. Et en ajoutant le fait que l'Allemagne, justement depuis des décennies, parce que les Français se sont retirés, parce que l'Angleterre est partie, ont un poids dans les institutions européennes extrêmement important. Donc demander dans ce contexte-là davantage de fédéralisme, c'est-à-dire plus d'appui, non plus sur l'intergouvernemental, et donc les les États-nations, mais sur les institutions comme la Commission et le Parlement, c'est en fait augmenter encore le poids de l'Allemagne par rapport non seulement à la France, mais aux pays du sud de l'Europe. Et donc, c'est une façon pour la France de dépendre de l'Allemagne. Je termine par un point.
Oui.
Je vois d'emblée ce qui va se passer. On donnera des gages à Emmanuel Macron sur la défense européenne parce que ça lui permettra, dans sa politique intérieure, de dire qu'il a avancé, qu'il a obtenu justement plus de souveraineté européenne et plus de... Voilà. Ce sera du vent et derrière, il y aura quelque chose qui ne sera pas forcément dans l'intérêt des citoyens non allemands de l'Europe.
Le hareng de Bismarck, c'était pas très loin de ce livre de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes quand même favorable à la légalisation du cannabis ?
Ça oui, et je pense que la France devrait ouvrir enfin ce débat.
Et c'est impensable justement en France, vu la manière dont le sujet est posé.
Bah oui,
un mot Gilles quand même pour nous expliquer, on est en pleine campagne présidentielle en France. Comment se fait-il que de l'autre côté du Rhin, la social-démocratie se porte bien très bien au point même d'avoir un chancelier social-démocrate, les Verts également, et en France c'est l'inverse si on fait un peu de politique comparée. Explication ?
Alors, ce n'est pas faux. Si on avait eu...
Enfin, c'est même vrai.
Oui, c'est vrai. Mais si on avait eu exactement la même conversation au mois de juin dernier, et il n'est pas impossible que nous l'ayons déjà eu, qu'aurait-on dit ? On aurait dit que le SPD était dans une situation catastrophique. Le SPD était à 14% à la fin du mois de juin 2021.
Enfin, il n'était pas à 4% comme aujourd'hui en France.
À 14%. Il a progressé à 26%, ça fait plus 12. Ah, ça fait si les socialistes et les écologistes font plus 12 chacun dans cette campagne, la situation sera un peu différente. Je crois qu'on n'y est pas totalement. Et pour le reste, je poursuivrai bien volontiers, mais on le fera une prochaine fois, la discussion avec Natacha sur l'Allemagne et sur l'Europe.
En tout cas, ça fait retrouver le sourire aux social-démocrates que vous êtes. La légalisation du cannabis, vous applaudissez aussi ?
Moi, ma position, c'est qu'on est aujourd'hui dans une impasse sur ce sujet-là.
En France.
Et que c'est sans doute un des bons sujets sur lesquels on pourrait avoir une convention citoyenne. Ça serait sur la légalisation du cannabis.
On peut rêver.